Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
L'énergie Yang, elle est puissante, elle est en mouvement, elle est créatrice, mais elle peut être aussi très rapidement dominante et dominatrice. Et je pense que c'est là où est-ce que je trouve mon curseur pour rester d'une certaine manière ce que je suis, sans dépasser et sans nuire.
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mecs. Deux mercredis par mois, à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question toute simple mais pourtant tellement compliquée, c'est quoi pour toi être un homme ? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation, sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses, allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute.
Est-ce que je le prends façon stand-up ?
C'est vrai qu'ils ont un style, les stand-uppers, pas tous. Hein.
Ouais.
Et il y en a qui sont à l'américaine et qui le tiennent vraiment. Tu sens qu'ils ont taffé le geste, quoi.
Ouais, il y a un truc, ouais.
Ou alors, comme ça, tu vois, avec genre trois doigts et tout. Bah oui, écoute, hein. Je crois que je vais. Non, mais c'est bien. Ok. T'es à l'aise ?
Ouais.
Ok. T'étais à l'aise pour parler de masculinité, toi ?
Écoute, on va tester.
C'est pas ton domaine de prédilection ?
Disons que c'est un domaine qui me venait pas tellement à l'esprit, en fait, avant ça. C'est pas quelque chose que je conceptualisais de cette manière et je me disais pas que j'avais à réfléchir dessus.
Et quand tu dis avant ça, c'est quoi ?
C'est une bonne question. Avant 3 minutes. Voilà. Au fil des événements de ma vie, je pense, notamment les relations, évidemment. Et plus il y a eu des événements, plus ça avançait, plus je me rendais compte, des schémas répétitifs et qui finalement à chaque fois avec des indices de tiens c'est quoi la masculinité, l'énergie masculine, qu'est-ce que ça veut dire, il en faut plus ici, il en faut moins là, enfin voilà,
et c'est compliqué et
donc,
à doser, hein.
Voilà, exactement. Et donc d'un coup il y a ce truc de ah, peut-être que c'est quelque chose que je dois plus avoir à l'œil et d'avoir plus dans mon champ de conscience,
là où je crois que les femmes, si on leur demande c'est quoi pour toi être une femme, si tu veux, on leur renvoie tellement leur statut de femme au quotidien que je crois qu'elles en ont conscience très très vite, quoi, tu vois. Ne serait-ce qu'avec leur corps qui change, quand t'es jeune, quand t'es jeune femme, quoi. Ouais. Tu vois. Donc Marc, t'as quel âge au fait? Je sais même pas.
J'ai 42 ans.
42 ans, Marc.
Oui.
Comment tu décrirais ton métier? T'es coach? C'est ça que tu dis?
Oui, on va dire qu'en France, je suis coach. parce que tout le reste, c'est de l'habillage. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus sexy, beaucoup plus deep, et il y a beaucoup plus de nuances. Mais en France, c'est un coach en reconversion, quoi.
Ça serait que pour tout, si jamais vous êtes banquier et que vous voulez monter une crèmerie, donc vous pouvez contacter Marc, c'est ça?
Exactement.
C'est ça que tu veux. Mais alors, aux US, ça serait quoi quand tu dis que ça serait plus, c'est vachement plus deep?
Tu veux me faire parler en anglais là?
Ouais.
Non, mais je vais le faire en français. Déjà, j'ai une approche holistique, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire holistique sans que bon, ça paraisse tout de suite trop hurluberlu. C'est juste une approche globale parce que je ne crois pas à l'approche unique d'une manière générale. Mais je pense que surtout dans le développement de soi et dans le travail sur soi, juste la psychologie ou juste le coaching ou juste la respiration ou juste la nutrition, enfin, il y a rien qui suffit à lui-même. Et en fait, je pense que c'est vraiment le corps humain, l'esprit humain. Il y a tellement d'aspérités, de couleurs différentes et de d'angles différents que c'est vraiment une approche globale, à mon sens, qui est nécessaire à avoir. Et c'est ce que j'aime faire dans mon activité. Et donc j'ai un programme que j'ai créé, mais qui, enfin que moi j'ai rien inventé. Hein, c'est des choses que j'ai assemblées de différentes personnes qui m'ont inspiré.
T'as fait ta popote, quoi.
Exactement. Mais il est quand même à chaque fois réadapté à chaque personne parce que les besoins sont différents. C'est comme d'une certaine manière un médicament où on va dire bon, ça marche pour tout le monde. Non, ça va marcher d'une certaine manière pour quelqu'un, moins pour l'autre. La nutrition, c'est pareil. Il y a des choses qui sont bonnes pour certains, pas bonnes pour d'autres. Enfin, voilà.
T'es franco-allemand?
Exactement.
Je sais pas si c'est bon de le préciser, mais je le précise parce que peut-être ça a une incidence sur ton rapport à...
Je pense qu'il y a une incidence clairement parce que ce sont quand même, mine de rien, deux cultures extrêmement différentes. Et peut-être aussi, ça explique mon appétence pour tout ce qui est la culture plus anglo-saxonne, protestante. Mais quand même, en injectant le côté plus français, plus latin.
Quand tu dis protestant, qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu entends?
Protestant, c'est ce côté très, tu vois, minimaliste. Les églises, c'est pas des grandes basiliques avec de l'or partout, etc. C'est non, on bosse, c'est minimaliste, c'est droit au but. Il y a pas de chichi. Mais ça peut être aussi un peu rigide, tu vois. Là où le côté plus latin, plus catholique entre guillemets, va être peut-être plus romantique, plus plus rond, plus voilà.
Et ben écoute, merci déjà pour cette présentation. La première question que je pose à tous mes invités, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi pour toi être un homme, Marc?
Alors c'est une question qui est vraiment, moi qui ne me fait pas arriver à une réponse immédiate. Il n'y a pas un truc qui saute à l'esprit.
J'ai envie de te dire, 100% des invités sont dans le même cas. Donc, c'est vraiment une question complexe pour les mecs.
Mais disons qu'une chose qui me vient, c'est que j'ai un sentiment, en fait, une sensation qui me vient par rapport à ça, et j'ai l'impression que c'est lié à de la responsabilité. Et du coup, ça me fait penser à Spider-Man, with great power comes...
grande responsabilité.
Grande responsabilité, oui. Great responsibility. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là.
Okay.
Aujourd'hui, notamment. Encore plus que peut-être avant. Je pense que...
Tu veux dire aujourd'hui dans la période actuelle?
Oui, dans la période actuelle, dans la culture actuelle.
Pour toi, c'est dans cette période actuelle, c'est ça?
Ouais,
une responsabilité?
Oui, il y a une responsabilité qui est accrue, je pense, parce que, à mon sens, l'homme a eu un rôle dominant pendant extrêmement longtemps et avec tous les dommages que ça a pu causer. Et je pense que c'est justement une période de remise en question de tout ça, d'équilibre des forces. Et comment faire ça sans non plus perdre son pouvoir masculin d'une certaine manière.
Quand tu dis pouvoir masculin, qu'est-ce que tu entends par là?
C'est une forme de ce qui me vient, c'est une énergie en fait. C'est un sujet clivant puisque quand on parle de d'énergie masculine, féminine, tout de suite ça
essentialise un peu.
Voilà, et ça sépare. Évidemment, il y a plein de de nuances à ça. Mais d'une manière générale, quand même, je pense qu'on peut l'appeler yin-yang peut-être, mais en tout cas, l'énergie yang, elle est puissante, elle met en mouvement, elle est créatrice. Mais elle peut être aussi très rapidement dominante et dominatrice. Et je pense que c'est là où est-ce que je trouve mon curseur pour rester d'une certaine manière ce que je suis, sans dépasser et sans nuire, en fait.
Voilà. Et alors, comment tu fais pour le placer, ce curseur, toi, à titre perso ?
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Je pense que c'est le travail d'une vie, hein, de toute façon, de bien voir oui. Où est-ce que ça se situe. Mais je dirais que pendant longtemps, en fait, j'ai eu cette sensation de me dire... j'ai vécu une enfance un peu violente, avec un père un peu violent. Et du coup, rapidement, je me suis détaché de cette violence que je pouvais aussi sentir en moi, et je l'ai vraiment... oppressé le plus possible. Du coup, je me suis engagé à l'armée très jeune, juste après le lycée, etc.
T'en dis soit trop, soit pas assez, mais on va y revenir.
Ouais. Non, mais pour travailler là-dessus. Mais en tout cas, je pense que je l'ai beaucoup repoussé à chaque fois qu'elle pouvait apparaître quelque part, mais même vis-à-vis de d'autres hommes, tu vois, la compétition. Alors que je suis très compétiteur dans l'âme, j'adore les sports d'équipe, j'adore gagner, mais il y avait toujours ce truc de il faut pas trop gagner, il faut se limiter parce que peut-être que l'autre va souffrir ou voilà. Et donc c'est pareil au niveau de ma relation aux femmes par exemple, où ça a été toujours il faut surtout pas que cette énergie puisse exister ou sortir. Donc je sais plus exactement quelle était la question au départ, mais
t'es en train de parler de violence et de comment, je te demandais comment tu calais le curseur pour toi.
Oui, voilà. Et donc le curseur, c'est vraiment un ressenti, c'est une observation, et c'est tout le travail que j'ai fait sur moi aussi, qui est maintenant dont je fais le métier également, mais qui a été de prendre conscience de tout ce qui se jouait au quotidien. Et là où à la fois j'étais dans la retenue où je ne prenais pas ma place, et à la fois les endroits où peut-être je dépassais quelque chose ou sur un terrain sur lequel je n'avais pas envie d'aller. Mais en tout cas, il y avait une pression par rapport à tout ça. Et donc je pense qu'il crée un inconfort général. Et donc pour le curseur aujourd'hui, c'est de en devenant conscient, de placer cette énergie aux bons endroits. Tu vois, par exemple, dans la vie professionnelle, je pense que c'est intéressant de l'utiliser, cette énergie, pour accomplir des choses, pour être OK avec le fait de gagner de l'argent, être OK avec le fait de faire des choses sans dominer l'autre. Et peut-être que dans les relations, c'est un autre dosage. C'est que, à la fois pour garder une attraction, il faut qu'il y ait un peu cette énergie-là, mais on n'a pas besoin de soumettre ou de dominer pour ça.
C'est dur, hein, parce qu'en tant que garçon, on nous explique que que c'est très bien de soumettre les femmes, quoi. Et il y a d'autres femmes qui réclament ça aussi, en échange des hommes, quoi.
Oui, et c'est là où je pense que, en fait, c'est toutes ces mécaniques inconscientes qui sont là, à la fois chez les hommes et les femmes, qui mettent nous, en tant qu'hommes, dans une posture où y a une difficulté à naviguer, puisque effectivement, comme tu le dis, alors je ne sais pas si, parce que je pense que ça peut faire bondir certaines personnes, quand on dit oui, il y a une demande pour ça.
Il peut y avoir.
Il peut y avoir. Mais je pense que ça se joue beaucoup à un niveau inconscient, en fait. Et la preuve en est que le nombre d'exemples de couples où on peut se dire qu'est-ce que cette femme fait avec ce connard, ça arrive souvent. Et c'est souvent des relations toxiques, où il y a une difficulté de sortir de la relation, mais le fait que cette relation ait existé est aussi en partie, alors il y a plein d'autres facteurs, mais elle est aussi en partie, à mon sens, liée à ces mécaniques inconscientes de il y a une attirance pour ce genre d'énergie. Il y a une attirance pour le mâle alpha, tu vois, d'une certaine manière. Et il y a le syndrome aussi du mec sympa qui, lui, finalement, il se fait larguer, quoi. Il est accueilli au départ. Je fais une grosse généralité, oui. mais il est accueilli au départ et c'est super pendant un certain temps. Et puis en fait, à terme, c'est boring. Et donc comment on trouve le juste dosage là-dedans?
Ok. Parlons de ton enfance.
Allez,
si tu veux bien. Tu disais que t'as grandi avec un père violent.
Ouais, alors je pense qu'il a fait évidemment comme il a pu.
Rappelons que t'as 42 balais, que t'as été élevé par des mecs qui ont eux-mêmes été élevés par des hommes violents.
Oui, bien sûr.
Une sorte de perpétuité de la violence.
Et puis son enfance a été extrêmement violente. Enfin, je veux dire, il a grandi, donc mon père est allemand, il a grandi dans des ruines. Son terrain de jeu, c'était des ruines de villes bombardées. Et il n'y avait rien d'autre. Donc il faut remettre ça aussi dans son contexte. Et puis, les générations encore avant, c'était effectivement l'idée prussienne d'élever des enfants. Les enfants n'avaient pas de valeur. On les utilisait pour le travail. Il a fait comme il a pu avec ses traumas à lui. Et ces générations-là ont peut-être moins eu la possibilité et moins eu aussi le réflexe de travailler sur tout ça comparé à aujourd'hui.
Ouais. T'as été élevé dans de la violence, tu disais, et violence physique,
ouais.
Psychologique.
Les deux. Beaucoup plus, enfin, le plus difficile étant la violence psychologique au final.
Ouais.
Mais les deux.
Comment t'as réussi à te construire en tant que petit mec avec un père violent?
Il y a eu vraiment plusieurs phases. C'est qu'au départ, cette violence, elle ressortait et elle ressortait sur les autres. Et puis j'ai bien vu que c'était quelque chose que j'avais pas envie d'être.
Comment t'as eu, t'as eu un réflexe?
Je me battais et puis je sentais que j'étais un peu tu vois, les Anglais ils disent, ou les Américains ils disent, le bully. En début d'adolescence. Et puis en fait, j'ai eu un choc, ouais, où je me suis dit, mais j'ai pas envie d'être ça. Et du coup, je suis devenu tout l'inverse.
C'est quoi ce choc? T'as un souvenir particulier?
Ouais, j'ai un souvenir particulier. C'était au lycée, au collège. Et je me souviens qu'il y avait un gars qui était, qui était un peu paumé, qui avait lui-même sa forme de violence. Mais je me souviens que je l'avais écrasé. Psychologiquement surtout, et j'avais vu sa douleur et sa tristesse et sa souffrance, et en fait c'était pour moi c'était ça un des chocs entre guillemets.
Tu le sentais avant, en fait, avant d'avoir ce déclic là, tu sentais qu'il y avait un truc qui dissonnait en toi, qui fonctionnait pas quand t'étais violent comme ça avec d'autres gamins?
En fait, je crois que c'était le fonctionnement que je connaissais, et donc je me disais pas, j'avais pas conscience de quoi que ce soit à ce moment-là. Et je me disais, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi.
Ok.
C'est ça la vie.
Et tu disais que ça s'était fait en plusieurs étapes.
Oui, oui, parce que voilà, des prises de violence comme ça, il y en a eu plusieurs. Et
des prises de conscience, tu voulais dire ?
Non, non.
Des prises de violence.
Prises de violence, okay. Enfin, un peu cette violence qui te prend à l'intérieur, okay, et que tu peux pas contrôler. Tu vois, et pas forcément vis-à-vis d'autrui à chaque fois, mais voilà, quelque chose qui est là, qui est noir, qui est intense, et qui fait pas du bien, quoi.
Comment tu l'analyses après coup ? C'était de la colère ?
Ouais, je pense que c'était de la colère, c'était le besoin de certainement de aussi ressentir la capacité de dominer là où je me faisais dominer tout le temps, et le besoin de, bah, c'est souvent ça, hein, de toute façon les gens qui sont violents et qui soumettent les autres, c'est parce que ils ont eux-mêmes, sans trouver d'excuses, hein, mais eux-mêmes vécu des choses qui ont fait que bah, ils ont besoin d'un exutoire et de ressentir ça, bah, pour certains ça fait un choc et il y a un éveil, et pour d'autres ça met un peu plus de temps. Donc voilà, mais je pense que c'est vraiment le fait de ouais, exorciser un peu tout ça.
L'armée,
ouais, l'armée.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu termines à l'armée ? Parce que rappelons qu'à 42 ans, t'es pas censé faire le service militaire.
Non, je me suis engagé.
Il n'existait plus, quoi, déjà.
Je me suis engagé parce que, en fait, il y a une de mes schémas de pensée, c'était de, je me disais, j'ai besoin de faire face à une autorité que je respecte et que je trouve légitime. L'autorité
que tu avais du mal à trouver en résonance avec ton père, c'est ça, ou en...
Oui, parce que pour moi, c'était pas légitime.
Ah, ok.
Sa violence n'était pas légitime, et son autorité, et son emprise psychologique n'était pas légitime. Et là, j'avais besoin d'être confronté, de voir que ça pouvait exister, qu'il y a une autorité qui... Parce que pareil, au lycée ou au collège, pour moi, c'était pas légitime. Les autorités qui venaient, ça, je ressentais trop les blessures aussi des profs. Qui n'étaient pas bien dans leur pompe ou quoi, et qui sortaient une autorité qui était mal placée. Et je crois que j'étais en quête de ça, de vraiment trouver une autorité qui me semblait légitime. Et à l'époque, pour moi, ça passait par l'armée, et à l'armée, par les forces spéciales, parce que je me disais, bah, c'est des mecs qui ont sacrifié leur vie, qui, ça fait 30 ans qu'ils sont dans des situations... même pas descriptible, et je me disais, bah ouais, je pense que si ce mec là me donne un ordre, ok, je pense qu'il sait de quoi il parle, et je pense que je peux écouter.
Donc tu t'es engagé pas n'importe où dans l'armée?
Non,
mon objectif, les forces spéciales.
Mon objectif, c'était vraiment de rentrer dans les unités d'élite et de faire quelque chose vraiment d'extrême.
Comment ça s'est passé?
Super, j'ai adoré.
J'ai cartonné.
Non, mais en fait, disons que, en tout cas, le début s'est extrêmement bien passé. Donc, je me suis engagé à l'armée de l'air, et puis j'avais mon parcours qui était très clair dans ma tête. Et j'ai fait, donc tu fais différents stages. Tu fais le premier stage qui est un stage un peu pour tout le monde, où tu fais tes classes, où tu apprends à faire ton lit, en gros, et à plier ta tenue. Et après, une fois que tu sors de ce stage-là, bah, tu vas dans tes spécialités. Et je m'étais fixé d'être major de promo dans tout ça, dans tous les stages que j'allais faire. Et je l'étais.
Pourquoi aller chercher cette excellence-là ?
Je pense que j'avais besoin de me prouver quelque chose à moi-même.
T'étais bon à l'école ?
Non, j'étais pas bon à l'école. Enfin, disons que j'arrivais à passer par la malice. J'étais dans un lycée assez élitiste, un lycée international où tu dois parler plusieurs langues, etc. Mais je foutais rien parce que c'était tellement le bordel dans ma tête par rapport à ce qui se passait chez moi. J'avais aucune envie, il y avait rien qui m'animait. Dans ma tête, c'était, la vie, c'était pas fun, quoi. Et du coup, je pense que j'avais besoin aussi de me prouver à moi-même que j'étais capable d'excellence.
Okay.
D'une manière ou d'une autre. Alors, je me disais, j'ai pas envie d'être que dans l'excellence physique. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi les forces spéciales, parce que dans ces unités-là, eh bien, il y a aussi, ça, c'est très intellectuel aussi. Il faut apprendre plein de choses. Alors oui, c'est sur des armes, oui, c'est sur de la stratégie, oui, c'est sur voilà, mais c'est quand même un apprentissage théorique.
Ouais. Qu'est-ce qu'il en a dit ton père à l'époque quand tu t'es engagé dans l'armée comme ça ?
Ah bah je sais même plus ce qu'il a dit puisque j'avais coupé les ponts avec lui, enfin plus ou moins pendant un certain nombre d'années. Enfin il y avait un contact mais très lointain, et ce qu'il pouvait dire n'avait vraiment aucune incidence sur moi. Donc là je me souviens pas.
Tu faisais pas pour lui prouver un truc aussi en fond ?
Bah je pense que il y a eu une partie de moi qui a choisi l'armée française parce que comme j'ai les deux passeports, se présentait le choix aussi de l'armée allemande. Et lui a fait l'armée allemande.
Ah, c'est un militaire ton père ?
Ouais, enfin non, pas de carrière, mais il l'a fait pendant un certain nombre d'années. Voilà. Et je crois qu'il était assez fier de son passage à l'armée. Et donc je pense qu'il y avait aussi ce pied de nez de dire bah, « moi je choisis la France ». Et voilà.
T'as cartonné alors sur les forces spéciales ?
Bah, je suis pas. Finalement, j'ai pas. En fait, j'ai fait toutes les étapes qu'il fallait pour y arriver. Et puis une fois que la porte était ouverte, finalement, au bout d'un an et demi, j'ai lâché l'affaire. En fait, je me voyais pas. Tirer sur des gens, quoi.
Tu y avais pas pensé avant ou...
Non, pas vraiment.
Okay.
Et j'étais extrêmement bon au tir. tout ça, je le savais pas. Tu vois, je savais pas que j'allais être bon à ça. Je savais pas que j'allais être bon. Je savais pas que j'allais être aussi bon dans tout ça. Tu vois, et il se trouve que dans ces unités-là, il y a aussi des personnes qui sont déjà à l'armée depuis un certain temps, qui postulent et qui tentent leur chance. Et je me retrouvais face à des mecs qui avaient déjà 4-5 ans d'armée de terre derrière eux ou d'armée de l'air, qui étaient des monstres physiques, et puis bah, j'arrivais quand même à finir devant eux au classement général. Et donc je me disais waouh, en fait il y a un truc là. Et puis je pense qu'il y avait de la peur aussi, tu vois, d'une certaine manière. Je prenais ça comme un jeu, j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau. Toutes les techniques de déstabilisation psychologique qu'on te fait subir dans ce type d'entraînement et dans ce type de parcours, ça peut être assez lourd pour certains. Moi, je le prenais vraiment comme un jeu, ça me faisait rire. Et donc, je m'étonnais aussi, tu vois, là-dedans. Mais en même temps, je pense qu'il y avait aussi une peur de partir... c'est con ce que je vais dire, mais de partir que entre hommes pendant des mois, tu vois. Je pense que le contact... féminin était vraiment important pour moi aussi.
Ok.
Et ça, c'était pas tout, mais je pense que c'était une partie aussi de mon choix. Et plein de choses se sont alignées. Et puis je me voyais pas, voilà, encore une fois, je me voyais pas tirer sur des gens, quoi. Et c'est ce que j'allais être amené à faire, de toute façon.
Oui. Mais c'est fou que t'y aies pas. Enfin, tu vois, que t'y aies pas pensé. Si tu vas dans les forces spéciales, a priori, tu finis par apprendre à tuer des gens, non ?
Bah, je pense que j'en avais envie.
Ok.
Au départ. Tu vois,
c'était pour régler un compte avec ton daron ou...
Peut-être, mais non, mais en fait, c'était pas vraiment l'envie de tirer sur des gens, mais c'était plus, voilà, je veux défendre la France, je veux défendre un idéal, une idée d'un idéal, et puis je sortais d'une adolescence, tu vois, de jeux vidéo, j'étais pendant 7 ans en club de paintball, donc il y avait déjà tout ce truc qui était là, et je pense que, c'est un truc très masculin aussi, ça, pour le coup. Alors, je fais pas de généralité, mais je pense que cet attrait pour la guerre, les armes, la destruction, la domination, etc., sous couvert d'une armée qui va te dire bah oui, mais c'est pour la bonne cause, ouais. Et puis c'est toi, t'es les gentils, et puis les autres, c'est les méchants. Je pense qu'il y avait quelques fantasmes à ce niveau-là. Et puis après, une fois que j'étais face à ça et que je voyais c'était cool de tirer sur des cibles en carton et de toucher dans le mille. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça sur quelqu'un ? Je crois pas.
Parce que si on y réfléchit un peu, vu toutes les guerres qu'il y a eu depuis des millénaires, forcément on a ça dans nos gènes, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Ça doit être très compliqué de trouver un homme dont un des aïeux n'a pas, tu vois, s'est pas retrouvé sur un champ de bataille ou a tué quelqu'un d'autre, tu vois. C'est
incroyable. Pense que ça n'existe pas. Ouais.
Quand on y réfléchit un peu, donc on a ça en nous, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et t'avais un peu ça en toi ?
Ah, j'avais complètement ça en moi. Ouais. Et je pense qu'à la fois, il y avait une transmission, effectivement, généalogique, mais il y avait aussi toute cette violence qui était en moi de mon enfance, de mon adolescence, etc., qui avait besoin de sortir.
Tu disais le contact féminin était important pour toi. On n'a pas parlé de ta maman.
Ouais.
Comment, c'était quoi ta relation avec elle?
Très bonne relation. En tout cas, j'avais l'impression.
Ouais.
Puisque après leur séparation, ils se sont séparés quand j'avais 10 ans, j'ai vécu avec elle et elle n'a pas refait sa vie. Et du coup, j'étais un peu le mari à la maison.
Oh.
Ouais.
Grosse responsabilité.
Bah ouais. Et évidemment, extrêmement fondateur pour mon rapport aux femmes. Et ça, je m'en suis rendu compte bien après.
On va en parler, t'inquiète.
Je me doute. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des gros challenges pour les hommes aussi aujourd'hui. Mais bref.
Tu veux dire de recalibrer le rapport à la mère?
Ouais.
Ok.
Ouais, ouais. Et qui fausse toutes les relations hommes-femmes. Mais bon, bref. On reviendra dessus. Et donc, j'avais pris le parti de la France, j'avais pris son parti parce qu'elle est française. Et pour moi, voilà, elle faisait tout pour donner une vie agréable à ses enfants. C'est un peu plus tard que je me suis rendu compte, mais en fait, elle est quand même restée avec quelqu'un pendant un certain temps qui était violent. Elle était violent vis-à-vis d'elle aussi. Elle était aussi bloquée là-dedans. Enfin, tu vois. Mais bon, il y a quand même eu un petit cheminement après. Mmh. Mais j'ai fait pas mal de travail et mis pas mal de changer ma relation avec elle. Et aujourd'hui, on a une bonne relation.
Quand tu dis changer, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Déjà, il faut se rendre compte de la toxicité d'une relation, même si elle paraît de l'extérieur extrêmement sympa, en fait. Quand on grandit là-dedans, c'est la normalité, en fait. Mmh. On ne se rend pas compte. Je ne me rendais pas compte. Oui, je pense que pour justement prendre ce statut d'homme, en tout cas embrasser sa masculinité, à un moment, il faut être capable aussi de couper avec sa maman.
Avec la mama.
Voilà. Garder, évidemment, je lui ai dit un jour, je suis plus ton enfant. Je resterai ton fils pour toujours, mais je suis plus ton enfant. Et parce que tu vois, c'est sympa de... c'est confortable, hein, elle te fait à manger, elle te fait ta lessive, elle est contente de le faire, elle fait ceci, cela, mais en fait, tout ça, c'est des pièges toxiques qui sont pas du tout malveillants. Il y a beaucoup d'amour là-dedans. C'est en tout cas une façon d'exprimer l'amour, mais qui sont, à mon avis, à mon sens, pour les hommes extrêmement toxiques et surtout pour leurs relations après intimes.
Je vais en profiter pour placer un petit mot pour un épisode que j'ai fait sur un bouquin qui m'avait été conseillé par ma psy, qui s'intitule « Vos parents ne sont plus vos parents ». Et où en fait c'est un couple de psy d'ailleurs qui décline un peu le concept d'ex-parents et d'ex-enfants à l'âge adulte. Mmh. C'est-à-dire que en fait tes parents ne sont plus tes parents, ils sont tes ex-parents. Et en fait tu n'es plus leur enfant, tu es leur ex-enfant. Et je trouve que de venir poser ce truc-là, je trouve ça hyper malin parce que ça, effectivement, ça veut dire qu'il faut changer la relation de la même façon que tu peux continuer à avoir une ex-amoureuse dans ta vie. En fait, ce ne sera plus la même relation, quoi. Mmh. Bref, je vous mettrai un lien dans les notes si jamais vous voulez l'écouter. C'est intéressant. Puis procurez-vous le livre si jamais vous avez des petits problèmes à couper les ponts avec papa ou maman, quoi. Parce que c'est pareil, il faut aussi réussir à couper les ponts avec son père, quoi. Tu vois. Pour toi, j'imagine que ça a été fait de façon un peu brutale et limite un moyen de survie, quoi. Mais ça peut être aussi toxique avec les pères, quoi.
Totalement, et je pense que la première étape, c'est avant tout de se rendre compte qu'il y a ce lien qui existe. Avec mon père, ça a été plutôt la démarche inverse. C'est comment je reconstruis quelque chose, comment je recrée quelque chose pour pas être à mon tour dans la colère, dans la haine, dans le rejet.
Comment t'as fait alors? On peut en parler.
Ouais, ça a été un cheminement. Hein. C'est pareil. C'est d'abord, il faut comprendre ces mécanismes, je pense que c'est essentiel et j'ai eu la chance de vivre des événements dans ma vie qui petit à petit m'ont amené cette conscience et après une fois que tu l'as, ok, maintenant il faut passer à l'action et donc j'ai eu des discussions avec lui, j'ai J'ai fait mon travail de compréhension aussi que voilà, bah, comme je disais au départ, que bah, les parents, ils font bien ce qu'ils peuvent, en fait, parce qu'ils ont eux-mêmes leur trauma, leurs difficultés, et c'est parfois difficile à accepter, mais en fait, il n'existe pas d'autres moyens pour eux de faire. C'est pas comme s'ils choisissaient, ah ben j'ai deux solutions, je peux être sympa ou je peux ne pas être sympa, et ils choisissent, ah ben non, je vais pas être sympa. Mais en fait, non. C'est qu'ils choisissent pas. Ils font ce que leur instinct leur dicte, ce que leur pulsion leur dicte, ce que leur inconscient leur dicte.
Ce que leur éducation leur dicte.
Tout le formatage, tout. Malheureusement, on peut pas leur en vouloir.
Malheureusement,
bah oui, parce que c'est facile de c'est apaisant de pouvoir leur en vouloir d'une certaine manière, même si ça crée quelque chose de négatif en soi à terme, mais au départ c'est une facilité et c'est aussi une déresponsabilisation, donc c'est confortable.
T'avais quel âge quand t'as fait la paix entre guillemets avec ton père?
Je dirais la paix totale et la vraie compréhension de ce qui se passait, des enjeux, c'était dans ma trentaine.
Ok.
Mais j'ai repris mon pouvoir, plus ou moins, en tout cas mon pouvoir physique, quand j'ai eu 18 ans.
Quand tu veux dire ton pouvoir physique, tu veux dire?
C'est-à-dire où j'avais plus peur de lui, physiquement.
Oui, parce que tu pouvais riposter, quoi.
Ouais, voilà, exactement. Et c'est d'ailleurs, c'est ce que j'étais parti pour faire. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai pris un billet d'avion, un billet de train, je sais plus, et je suis parti en Allemagne. Et dans ma tête, c'était maintenant, je vais lui casser la gueule. Et je vais, c'est à moi maintenant de dominer. Tu vois.
Qu'est-ce que t'as fait alors sur le moment?
En fait, je l'ai dominé par la parole. Il s'est écroulé avec toutes les choses que j'ai eu à lui dire. Et c'est là aussi où j'ai vu, en fait, j'ai vu sa faiblesse d'une certaine manière, son désarroi, sa souffrance. Tu vois, ça a commencé à cheminer à ce moment-là où j'ai vu, en fait.
Parce qu'il s'est mis à pleurer devant toi à ce moment-là, à dire qu'il regrettait, c'est ça ou...
Ouais, okay. Exactement.
Ok. Oui, tu t'es dit que finalement il était lui aussi victime. De ses propres trucs, quoi.
Ouais, exactement. Exactement.
Ok. Qu'est-ce que tu fais alors après les forces spéciales?
Après, qu'est-ce que je fais? Je trouve un boulot, mon premier boulot, qui est dans le milieu de la marine marchande, pour une boîte allemande. Donc je me reconnecte à l'Allemagne, tu vois. Et c'est drôle parce que je le fais avec le PDG de cette boîte, c'est le père d'une très bonne amie à moi, que je connais depuis que j'ai 7 ans. L'âge de 7 ans, et en fait j'allais dans cette famille parce que ma mère travaillait toute la journée, elle rentrait à 20h, 21h, et donc quand je revenais de l'école, du collège, et puis après au début du lycée, enfin le lycée j'étais plus indépendant, mais au début du collège il fallait bien que j'aille quelque part, et donc j'allais chez eux parce qu'ils étaient allemands, enfin 100% allemands pour le coup, pour pratiquer. Et en fait je voyais ce que c'était un papa poule pour le coup. Hyper présent pour sa fille, hyper enveloppant, créatif, à tout faire pour la développer d'une certaine manière. Et du coup, c'était génial. Et donc, arrivé après l'armée, j'étais en contact avec lui depuis mon enfance, et il me propose de bosser quelques mois dans sa boîte. Il avait des petits trucs à faire, et en fait, il a apprécié la façon dont j'ai pris. Je sortais de l'armée, donc on me donnait une tâche, j'y allais, quoi. Et donc, il a apprécié ça, je pense. Et puis, il m'a proposé un poste plus important. Et donc, je suis resté dans cette boîte pendant 3 ans. Et je l'avais vraiment en admiration, tu vois. C'était vraiment quelqu'un que j'estimais beaucoup.
Qui a fait un peu le père de substitution.
Sur certains aspects, oui, clairement. Ouais.
C'est important, hein, ouais, d'aller chercher des darons de substitution ou des mamans de substitution. Ok, comment t'en viens à te lancer dans le coaching alors?
Alors, bon, il y a beaucoup de vies différentes qui se passent entre-temps, mais ça prendrait trop de temps, je pense. Mais finalement, je me retrouve au début de ma trentaine, à revenir des États-Unis où j'ai vécu pendant 1 an et demi, et j'ai étudié l'œnologie, Je travaillais dans le vin là-bas. Et quand je suis revenu à Paris, j'ai monté une cave bar à vin dans le 11e, rue Oberkampf, que j'ai eu pendant 7 ans quasiment. Et en fait, c'était une expérience incroyable, une expérience humaine géniale. J'ai rencontré tellement de personnes incroyables et inspirantes. Et c'était une expérience pour moi aussi. Voilà, j'ai eu quelqu'un qui m'a prêté de l'argent, mais j'ai tout fait tout seul, quoi. Donc c'était intéressant aussi de monter tout ça seul. Et à l'époque, en fait, l'idée qui m'a fait monter ce bar à vin, c'était que quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais à San Francisco, à tous les coins de rue, bon, j'exagère un peu, mais il y avait quand même une grande offre de bar à vin qui te permettait de déguster un vin de n'importe quel pays du monde, quasiment. Et à Paris, à l'époque, c'était les vins internationaux, c'était 3% du marché, et c'était les grandes marques qui n'ont aucun intérêt. Et j'avais envie de créer un lieu comme un lieu que moi j'avais envie de consommer.
Ok. Tu vois. Ce qui est souvent une bonne façon de monter des boîtes.
Voilà.
De créer le besoin que tu as, quoi.
Exactement. Et donc j'ai monté ça et j'avais vraiment. Donc j'avais un lieu qui avait 50% de vin étranger, 50% de vin français. Et mon idée c'était vraiment de faire découvrir des goûts qui n'existaient pas en France ou qui sont très peu connus en France. Puisqu'on fait les vins différemment, et de donner du plaisir aux gens, tout simplement. Et ça a très bien marché. Les premières années, en tout cas, c'était super. Le concept a vraiment pris. Il y avait vraiment un questionnement sur... Bon, c'est un peu à Paris, quoi, de proposer des vins étrangers à Paris, enfin en France. Et puis, au fil du temps, pour différentes raisons, j'ai commencé à étudier la nutrition, à étudier... Voilà, la méditation, les compléments alimentaires, des approches naturelles.
Tu faisais pour toi ?
Pour moi, ouais. Pour moi. Et pour ma compagne de l'époque, qui avait un besoin spécifique, qui a accéléré le processus, qui a fait que je me suis d'autant plus intéressé à ça pour creuser le sujet. Et ça, c'est un truc qui m'est resté, c'est que quand je me mets à un sujet, le trou est sans fin, quoi. Donc, je vais vraiment loin pour avoir un maximum d'infos. Et en fait, petit à petit, eh bien, ma vision de ce que je faisais changeait. Je faisais exactement la même chose, mais je commençais à avoir l'impression d'empoisonner mes clients, en fait. Et à un moment, c'était plus possible.
Incroyable.
Et
tu les empoisonnais dans quel sens ?
Avec de l'alcool, avec des produits laitiers, avec de la charcuterie. Et c'était que des produits que j'allais vraiment... Je me donnais beaucoup de mal pour aller chercher des produits... bien fait.
C'était des bons produits.
Des bons produits.
Mais ta vision de l'alimentation avait changé entre temps, quoi.
Exactement. Et puis au-delà de ça, même la philosophie du rapport à la consommation d'alcool les masques sociaux qu'on porte et du coup ce jeu social. Qui est mené autour d'événements et où tout de suite l'alcool a un rôle gigantesque et puis presque on ne peut plus faire sans alcool.
On picole beaucoup en France. Hein.
Ouais, je pense. Je pense que c'est beaucoup. Et tu vois, bon, c'était un bar à vin un peu. Je dirais pas que c'était. J'avais pas de bouteille à plus de 150 euros, tu vois, donc c'était pas non plus.
Hyper fancy.
L'endroit hyper high-end, mais il y avait quand même un certain standing, on va dire. Et malgré ça, à 2h du matin, j'étais quand même souvent entouré de zombies, quoi. Qui étaient déchirés. Et c'était un endroit, en plus, dans le 11e, qui est vraiment un village. Donc j'avais des clients qui venaient régulièrement. Et j'avais des clients qui venaient tous les jours. Et à un moment, en fait, au début, je me disais, mais c'est trop bien. Tous les jours, je leur donne quelque chose qui leur fait plaisir et ils prennent un bon moment, etc. Et après, petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte, en fait, en fait, ils sont pas bien, tu vois, je pense.
Et puis, t'es un peu un dealer de cette-là ?
Exactement. Okay. Exactement. Il y a une étude qui est sortie en Angleterre il y a quelques années qui fait le comparatif entre toutes les différentes drogues qui existent, des plus violentes en passant par l'alcool, aux champignons, aux psychédéliques, la méthamphétamine, enfin tout. Et il y a deux critères qui sont pris en compte, c'est le dommage sur soi et le dommage sur les autres. Et quand on cumule les deux, ce qui vient en numéro un, devant toutes les autres drogues, il y a une liste d'une trentaine de substances, c'est l'alcool.
Incroyable.
Ouais. L'alcool, c'est ce qu'il y a de plus dangereux si on cumule le danger pour soi et pour les autres.
N'oublions pas que c'est la deuxième cause de cancer en France, après le tabac. Donc, oui.
Voilà, donc bon, après ça c'est un autre débat, oui. et tu vois, je suis pas 100% anti. Je pense juste qu'il faut prendre conscience de la quantité, et il faut prendre conscience des réflexes, des automatismes. Et en tout cas, moi, j'avais plus envie de faire partie de ça.
Puis toi-même qui étais en colère, etc. Tu sais qu'il y a plein de mecs, notamment, qui picolent pour inhiber ça, quoi, tu vois, pour l'oublier, quoi. Donc c'est une façon comme une autre de mettre de côté sa tristesse, sa colère, c'est les émotions dites négatives, quoi.
Bah, je pense que c'est à double tranchant, puisque peut-être au début, ça met de côté, et puis après, quand tu dépasses un certain stade, là, au contraire, ça ressent puissance 1000, ça ressort puissance 1000. Donc bref, voilà ce qui a fait que ma vision a changé, et puis donc je commençais à me dire, perte de sens total, qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et puis ma relation de l'époque se casse la gueule parce que je me couche à 3h du matin, quasi tous les jours, on se voit que le dimanche, enfin voilà, ça n'avait pas de sens. Donc tout qui s'effondre un peu en même temps. Et du coup...
C'est bien de s'effondrer parfois.
Bah clairement, enfin je veux dire, moi ça a été un cadeau gigantesque, extrêmement douloureux, mais un cadeau gigantesque, puisque c'est ça qui a commencé, qui a vraiment accéléré mon parcours de tout cette exploration du travail sur soi, de la découverte de soi, de la compréhension de soi, de l'apprentissage de la mécanique mentale, de comment ça fonctionne tout ça, qu'est-ce qui nous anime, enfin voilà.
Il y a un côté, t'es encore dans la performance à ce moment-là?
Clairement.
Tu sais, de la même façon que... Oui.
Clairement, bah oui, il faut que je sois Bouddha, quoi. Tu vois.
T'en es un peu revenu?
Clairement, oui, oui, oui. Mais j'avais besoin de le voir. J'avais besoin d'aller dans ce domaine-là.
Pourquoi tu as eu besoin d'y aller?
J'ai eu besoin d'y aller pour voir tout le négatif qui existe là. Puisque, on le voit, la spiritualité, elle amène à des choses graves. Tu vois, les gens se perdent, les gens rentrent dans une irréalité, les gens rentrent dans des sectes, les gens, la spiritualité et le travail sur soi, le développement de soi, le focus là-dessus à 100%, je pense que c'est dangereux. Ouais. Et le à tout prix, c'est de toute façon, d'une manière générale, je pense que tout extrême est dangereuse, ou dangereux plutôt.
Oui. Ça va mieux aujourd'hui?
Ouais, je me sens bien. Je pense que j'ai vraiment, enfin, mon travail durera toute ma vie, mais je suis plus proche de mon humanité, en fait. Tu vois, j'accepte plus le fait d'être humain, et j'aide les autres à l'accepter aussi.
Ça veut dire quoi pour les gens qui l'ont pas?
C'est que à moins d'aller dans une grotte et de passer sa vie à méditer, à ne faire que ça et à ne pas être en contact avec d'autres gens, en fait, il y aura toujours des moments où ça ira pas. Il y aura toujours des moments où on sera en colère. Il y aura toujours des moments où il y aura une défaillance. Il y aura toujours des moments où on sera triste. Et ça, c'est juste l'humanité, en fait. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important de l'accepter, et de voir à quel point ça me met des bâtons dans les roues, en fait. Et de voir, tiens, là, ça me bloque là-dessus, je vais aller travailler là-dessus. Mais je ne vais pas en faire une quête, puisque la quête elle-même me replonge dans une forme de violence ou d'extrême.
T'as vraiment cette sensation-là? C'est-à-dire que tu peux retomber dedans, encore aujourd'hui?
Je pense qu'on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri, et qui que ce soit n'est jamais à l'abri. Et je pense que l'histoire le montre, quand on regarde des gourous notamment qui à un moment en Inde étaient des personnages qui étaient extrêmement inspirants et qui apportaient beaucoup de positif au monde, et puis d'un coup ils se retrouvent en Californie et puis ils perdent totalement la tête. Enfin, des exemples, il y en a plein. Osho, Bikram, Yogi Bhajan, enfin. Et on se dit, mais ces mecs-là, à un moment, ils étaient quelque part, tu vois, et peut-être qu'ils se sont dit qu'en fait, ils étaient quelque part. Et du coup, bah, une fois que tu te dis que t'es quelque part, bah, tu retombes.
Et c'est... ça va vite.
Ouais, ça, on peut... extrêmement vite, je pense.
Parlons de ta relation aux femmes, si tu veux bien.
Ouais. On n'est pas couché.
C'est compliqué, à ce point. T'es célibataire ?
Je sais pas si c'est compliqué. C'est, y a beaucoup de matière. Disons.
Ok. Aujourd'hui,
je suis célibataire. Ouais.
Ouais. T'as été dans des relations longues ?
J'ai été dans des relations, enfin, qu'est-ce qu'on appelle long ? Mais en tout cas, bon. J'ai été dans des relations qui ont.
Établies, on va dire.
Ouais, j'ai vécu avec beaucoup de personnes. Mmh. Beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire ? j'ai vécu avec. Avec 5-6 personnes.
Ok.
Pendant 2-3 ans.
Ok. Mmh. Qu'est-ce que t'en retires aujourd'hui à 42 ans de ta relation aux femmes et de notamment de ce que tu disais, tu vois, de à quel point ça a pu être compliqué parfois pour toi, notamment dans ton rapport à ta mère, etc. Comment t'as dû recalibrer?
T'as dit 43 ans, c'est le 27 juin mes 43 ans, donc pour l'instant c'est 42.
Pardon. C'est dur pour toi de vieillir?
Non, pas du tout.
On va y venir si tu veux.
Bah non, parce que je fais 33, donc.
C'est vrai que tu fais jeune.
Ouais, mais ça, c'est le brocoli, hein, je te le dis. Ça, et l'absence d'alcool. Alors, ouais, c'est par où commencer? En fait, j'ai toujours cru que la relation... Mais j'avais toujours cette idée que c'était la chose la plus importante pour moi, qu'il n'y avait rien d'autre qui était plus important sur cette planète que l'amour. J'avais cette approche extrêmement naïve et romantique. Mmh. Naïve. J'étais prêt à tout lâcher pour ça. Bah, je l'ai fait, d'ailleurs. Ça m'est arrivé de... Bah, c'était une des raisons... Enfin, je ne vais pas mentir, la raison principale pour laquelle je me suis retrouvé aux États-Unis à la fin de ma vingtaine, c'est que je tombe amoureux et puis je lâche tout. J'avais un job, j'étais plutôt bien payé, j'avais une vie pépère dans le sens où j'avais de la liberté, où je profitais vraiment bien de la vie. Bah, j'ai tout lâché, je suis parti à l'autre bout du monde pour être déjà illégal. J'étais bien payé, mais j'étais payé au black. Et je sais pas s'il faut le dire ça d'ailleurs pour le fisc, mais bref,
on coupera.
Et donc oui, pour moi dans ma tête c'était ouais, évidemment c'est l'amour qui compte le plus. Et s'il faut élever des grenouilles à l'autre bout de la planète, j'élèverai des grenouilles du moment qu'il y a ça. Et en fait petit à petit j'en suis revenu, puisque je me suis rendu compte que en fait c'est un peu... Ouais, c'est une douce naïveté. C'est Disneyland. Tu vois.
Comment ça?
Dans le sens où... Il y a une réalité dans notre société qui fait que... dans la majorité des cas, je pense que ça ne peut pas exister si le focus n'est pas mis sur plein d'autres choses. Et aujourd'hui, justement, quand... je suis dans l'accompagnement de couples ou d'individus qui ont des difficultés de couple. La première chose, c'est de voir, ok, mais t'es qui toi, en fait? Et qu'est-ce que tu développes pour toi? Quel est le focus que tu mets sur toi? Et est-ce que t'es un individu ou est-ce que tu vis pour les autres? Et moi, je vivais clairement pour les autres.
T'avais besoin d'aller chercher de l'amour en faisant ça, c'est ça, en donnant tout?
J'avais l'impression que c'était comme ça que ça marchait,
okay.
En fait. Et puis ça... tu vois, j'ai un côté de moi qui est ultra sensible, du coup ça m'animait émotionnellement, c'était super, et puis la connexion avec l'autre, tu vois, pour moi c'est un moteur gigantesque, enfin j'ai l'impression que c'est un moteur parce que ça me rend ultra créatif, je peux écrire des lettres d'amour, je peux écrire des chansons, je peux écrire des trucs comme jamais je peux les écrire. En fait, je sais très bien que si je me posais et que je mettais mon focus mental dessus, je pourrais très bien les écrire, mais là ça vient tout seul. parce qu'il y a cet élan, parce qu'il y a cette énergie, parce que... Et donc, j'ai couru après ça toute ma vie.
C'est grisant.
C'est grisant, c'est extrêmement grisant. C'est ma drogue à moi, tu vois. Puisqu'en plus, il n'y avait plus l'alcool. Alors.
Et j'ai un peu l'impression, quand t'en parles, que t'en es un peu revenu, de cette vision.
J'en suis totalement revenu.
42 ans, bientôt 43.
Voilà. J'en suis totalement revenu, même si je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi et qui est un endroit que j'adore, qui m'apporte beaucoup et j'aime ce partage. Mais oui, je me suis rendu clairement compte que il fallait d'abord que je m'émancipe moi, que j'établisse des bases solides pour moi et que je crée l'individualité et que je m'aime moi totalement. Et puis après, alors non, je veux pas dire qu'il faut attendre de s'aimer totalement pour parce que ça c'est un autre extrême à nouveau. Tu vois, rapidement on peut tomber là-dedans.
On peut aussi trouver beaucoup d'amour dans les yeux de l'autre.
Exactement.
Ça peut être un vrai échange aussi, quoi.
Exactement. Mais je pense que ce qui est important c'est de garder en tête que à la fois soi-même et à la fois l'autre, il y a un moment l'attrait et la séduction, elles se cassent la gueule si il y a trop de fusion. Si les deux ne sont pas dans leur individualité, si les deux ne sont pas sur leur projet, leurs choses qui les font vibrer. Et ça, c'est, en tout cas dans mes observations jusqu'à présent, c'est qu'on le veuille ou non, inconsciemment, à un moment, il y a un switch. Et si c'est pas alimenté, c'est boring, ça se casse la gueule. Et on passe à la prochaine, tu vois, la prochaine relation. Et on recommence. Et c'est extraordinaire. Etc. Et je pense que ça c'est en rapport avec ce thème aujourd'hui, c'est que justement c'était aussi une invitation à recontacter beaucoup plus ma masculinité, tu vois, à me connecter à cette énergie, mais pour moi.
Comment ça pour toi?
Dans le sens où à plus développer mon activité professionnelle, à faire plus de choses pour moi et rien que pour moi, des activités que j'ai envie de faire, et à pas tout laisser tomber parce que d'un coup il y a cette être extraordinaire qui est là, cette sensation extraordinaire qui est là, tu vois. C'est un peu comme je tombe sur un gâteau au chocolat et je suis hyper fan de chocolat, donc pour moi c'est génial, mais du coup
tu ne manges plus que du chocolat.
Je mange plus que du chocolat et je suis dans l'extrême à nouveau, dans la surconsommation, et je veux tout. Alors que non, en fait, je le mange de temps en temps.
Comment t'as fait pour équilibrer ça? Parce que c'est dur, parce que pour moi, la limite, j'ai l'impression, c'est à partir du moment où tu commences à te marcher dessus pour l'autre, où tu commences à finir par ne plus être aligné avec qui tu es toi profondément, mais c'est dur de le laisser.
C'est extrêmement dur, et je pense que c'est pour ça que c'est essentiel de s'intéresser au développement de soi, de se faire accompagner, d'apprendre les bases de comment ça marche, tout ça, parce que sinon on s'en rend pas compte en fait. Et on est aspiré dans quelque chose, enfin moi je me suis souvent retrouvé aspiré dans quelque chose, mais après c'est trop tard. Et là, au fil de ces relations qui ont été mes émotions les plus violentes depuis mon enfance, je les violente dans le sens positif comme négatif, les plus intenses, je les ai vécues dans la relation à une femme, et elles m'ont apporté énormément, parce que à chaque fois j'ai appris quelque chose, à chaque fois j'ai avancé, et ça m'a permis de déceler ça. Ça a mis du temps, tu vois, 42, oui. C'est pas mais parce que je pense qu'il y a une partie de moi aussi qui a pas envie, qui a pas envie de la normalité.
C'est-à-dire quoi?
De qui a pas envie de
se caser.
Ouais, enfin, en tout cas, de ces relations, peut-être que je vois d'un œil un peu, tu vois, de travers, où je me dis c'est pas tout à fait authentique. Il y a un peu, il y a une connexion parce que peut-être qu'on peut pas faire trop autrement, ou parce que l'entourage qui pousse à ça, ou la société, ou j'en sais rien, et j'ai pas envie d'être là-dedans en fait. J'ai envie d'être dans quelque chose de le plus authentique possible et le plus en accord avec moi-même possible et d'avoir ce ping-pong avec quelqu'un qui est dans cette même posture.
Et c'est dur à trouver, j'imagine.
Dur à trouver, oui. mais en fait, d'une certaine manière, quand on laisse la place, je me suis rendu compte quand même que quand je laissais cette place-là, et parfois, ça veut dire traverser des moments avec personne, eh bien, ça permet à peut-être une rencontre plus qualitative, entre guillemets, d'affronter la peur, parfois le sentiment de solitude, et de traverser ce désert-là, et au bout, il y a quelque chose. Tu vois. Et d'ailleurs, je le vois, parce que j'ai l'impression que la qualité de mes rencontres, en tout cas des rencontres que j'ai, qui ont eu de l'importance pour moi, bah, elle augmente. Tu vois, à mes yeux en tout cas.
Ou tu vas plutôt chercher des gens avec qui ça connecte, mais toi t'es plus aligné.
Exactement.
T'es pas en train de tout donner pour l'autre à ce moment-là.
Voilà, il y a ça, et puis surtout la relation, elle est beaucoup plus saine. C'est drôle parce que il se trouve que juste avant notre enregistrement, là, j'ai passé 1h30 en appel Zoom avec mon ex.
Ok.
Et on s'était pas parlé depuis quelques mois. Et c'était très bienveillant, très amical. J'ai des bonnes relations d'une manière générale avec mes ex, sauf peut-être une ou deux. Mais là, c'est quelque chose qui va plus loin. C'est quelque chose de vraiment. Il y a le droit d'avoir de l'amour pour l'autre, tout en réalisant que la relation n'est pas possible. Ce qui avant était impensable pour moi. C'était il y a de l'amour, donc forcément.
Il y a une relation.
Il y a une relation, ça doit être.
Tu vois. Il faut que ça marche.
Alors qu'aujourd'hui, il est clair pour moi que l'amour ne suffit pas du tout.
C'est quoi la différence alors ? C'est intéressant ça. À quel moment pour toi, il peut y avoir de l'amour, mais une relation ne peut pas marcher ?
Eh bien, c'est justement que ça dépend de nos individualités et des endroits où on se trouve dans notre vie, des besoins que chacun a, des capacités aussi de communication. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Mais justement, de mettre de côté l'amour et de voir derrière ce qui se cache et quel est pragmatiquement, en fait, quels sont les critères qui sont là et quelles sont les choses qu'on peut mettre en place, est-ce qu'on a des désirs communs, est-ce qu'on a des valeurs communes, est-ce qu'on a des projets communs. Parce que juste compter sur l'amour, c'est la roulette russe. Et dans la majorité des cas, ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ne marche pas ? On peut très bien se dire qu'une relation qui dure 1 an ou 2 ans, elle a marché. Mais en tout cas, s'il y a envie de construction et de quelque chose qui est plus durable...
C'est plus compliqué.
C'est plus compliqué.
Parlons d'enfants. T'as pas d'enfants ? C'est dur ? C'est un sujet compliqué ?
C'est pas un sujet compliqué. J'ai pas d'enfants.
Je sens que c'est un sujet compliqué.
En fait, c'est pas que c'est un sujet compliqué, c'est que j'ai peut-être un enfant. Et je sais pas si je vais en parler là.
Incroyable! Quoi?
Voilà.
Quoi?
Ouais.
T'es pas sûr?
Non.
D'avoir un enfant?
Non. Mais l'histoire est extraordinaire. Je peux te la raconter et puis je déciderai après si je la garde. En fait, ça fait partie de mes histoires. Rocambolesque, mes histoires d'amour à la Woody Allen.
C'est des films, hein, je le rappelle. c'est pas la réalité.
Oui. Voilà. Mais justement, des choses qu'on nous fait croire peut-être et qui ne sont pas la réalité, mais qui peuvent exister en tout cas sur une période assez courte, très intense. Et donc c'était ce type de rencontre-là, une américaine, comme souvent mes relations d'ailleurs. Il y a d'autres sujets culturels là-dessus et sur le dating, etc., qui sont intéressants, mais peut-être qu'on en reviendra là-dessus. Mais en tout cas, cette américaine que je rencontre alors que j'ai mon bar à vin et qui rentre dans mon bar à vin, et tout de suite, il y a un flash. Et je vais à sa rencontre. Après, je vais à mon bar, je la revois. Je la raccompagne chez elle, et tout de suite on sait qu'il va se passer un truc, c'est pas possible autrement. L'énergie est trop puissante. C'est impossible autrement. Mais elle vit en France illégalement. Elle parle pas français. Et il se trouve que ça fait 2 mois qu'elle est en France et que, à côté de ça, elle a une relation en stand-by avec un mec avec qui elle a une maison commune à Boston depuis 3 ans. Enfin, elle a une relation. Elle était en relation depuis 3 ans. Mais elle a mis un stop à cette relation, enfin, en tout cas, un break, pour diverses raisons. Et elle a dit, bah, je me casse un an en France. Et donc, elle me le dit le premier soir. Mais moi, à ce moment-là, je me dis, mais je m'en fous royalement. Et puis, il y a aussi ce côté un peu masculinité mal placée de, bah attends, je vais battre l'autre, tu vois. Je vais gagner la femme, tu vois, de l'autre. Et c'est aussi un truc qui m'arrivait souvent et dont je suis sorti. Maintenant, quand il y a... Je vais plus sur ce terrain-là.
Ouais.
Ça m'intéresse plus.
Il y avait pas mal de femmes qui venaient, qui étaient en relation et...
La plupart de mes relations vraiment très importantes se sont créées sur le fait de, que la femme quitte son partenaire, pour moi.
Incroyable.
Ouais. Et des mariages qui se sont annulés.
Incroyable.
Ouais, ouais. Et,
c'est fou quand même comment on finit par attirer des gens à soi qui sont dans certains schémas, quoi, tu vois.
Ouais, ouais.
Il y a des patterns.
Ouais, ouais, bah c'est clair. Incroyable. Mais ça, je le voyais pas.
Oui.
Tu vois. Maintenant, je le vois et justement, pour moi, c'est un red flag direct. Et donc, bref, donc, on vit cette passion incroyable à courir sous la pluie dans les rues parisiennes, à se rouler des pelles contre les portes cochères, enfin, ce genre de truc-là, tu vois. À se voir tous les jours, dans la passion absolue, à faire l'amour absolument tous les endroits qu'on pouvait trouver.
Sur fond de musique de film, bien sûr.
Exactement, exactement, toujours. Et en fait, il se trouve que... Ça, c'était au mois d'avril, pour mettre une temporalité. Et puis, elle devait partir à la base en Grèce avec son ex au mois d'août pour qu'il la demande en mariage. C'est très codifié aux États-Unis, donc voilà, c'était très clair. Mais comme il avait annulé le voyage, elle avait dit, bah, fuck, je me barre. Et en fait, lui, sentant d'un coup le vent tourner, a débarqué du jour au lendemain à Paris et sans prévenir. Et du coup, je l'ai pas vu pendant une semaine.
Je croyais qu'il vous avait fait un plan ciel, mon mari.
Non. Il a débarqué chez elle et il se trouve que ce jour, à ce moment-là, j'étais pas là, heureusement. Mais donc, elle a pas eu le courage non plus de lui dire quoi que ce soit. Et donc, il est reparti au bout d'une semaine en lui disant, bah, je réorganise le voyage et on part au mois d'août en Grèce. Et donc, il part à l'aéroport, il retourne à Boston et tout de suite, elle débarque chez moi. Et voilà, elle est paniquée du fait que bah, j'ai plus envie d'elle, de ce fait-là, etc. Donc, elle fait tout pour bien être certaine que je sois encore ouais. bien amoureux. Et
tu dis ça, qu'est-ce qu'elle fait exactement?
On va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas elle se donne beaucoup de mal et elle est vraiment voilà, elle fait tout pour me satisfaire à tous les niveaux, en fait. Et par contre elle me dit bah je réfléchis quand même à partir avec lui au mois d'août, parce que je sais pas si je peux tirer un trait sur une relation de 3 ans alors que ça fait 2 mois qu'on est ensemble. Ce que je trouve acceptable, ça me fait chier et mon ressenti est pas agréable, mais je le comprends. Donc je dis ok, bah tu verras. Et donc on reprend notre relation comme ça jusqu'au mois d'août et vraiment on est en couple, quoi. Et enfin, je la présente aux gens. Elle a des copines qui viennent des États-Unis. Elle me présente. Enfin, voilà. Donc, on est vraiment, on est en couple. Et arrive le mois d'août où elle va partir. Donc, où elle part en Grèce pendant 15 jours. Et je lui dis, écoute, fais ton truc. T'as besoin de le vivre, vis-le. Mais ne m'écris pas. Ne me contacte pas parce que moi, je dois vivre un deuil parce que je sais pas ce qui va se passer derrière. Donc, je vais pas me faire de film, je vais juste faire comme si c'était terminé. Et donc, période difficile, on va dire. Et Mais même truc, au bout de deux semaines, elle débarque, alors que lui, en route pour l'aéroport à Paris, elle débarque chez moi. Et pareil, elle me dit je veux être avec toi, je veux plus du tout être avec lui. Il a essayé de. Il allait me faire sa proposition. Je lui ai dit surtout, sors pas ta bague, etc. Enfin, voilà.
Incroyable.
Ouais. Et donc, on continue notre relation, on part en vacances, et c'est extraordinaire. Et elle arrive fin août, et elle me dit, tu sais, aux États-Unis, les beaux, c'est généralement un an. Tu peux pas juste partir au bout de deux mois. Et bien, elle me dit, le bail se termine fin août ou début septembre. Je vais rentrer, je vais prendre toutes mes affaires, je vais les mettre chez mon père. J'annule le bail et puis je reviens à Paris. Et voilà.
Je sens que ça va pas se terminer comme ça, mais bon.
Écoute, on verra. En tout cas, je l'accompagne le dernier week-end à Londres parce que son avion partait de Londres. On a un week-end à Londres horrible parce qu'on est ravagé par l'émotion. À la fois, on est extrêmement proche parce qu'on veut pas se lâcher, mais on pleure en même temps parce que ça nous déchire le cœur de la séparation. Enfin, c'était intense. Et donc elle part. Et on se parle tous les jours par FaceTime, et c'est hyper cool. Elle fait de la coloc avec son ex dans la maison, donc. Mais tout se passe bien. Lui est toujours pas au courant. Il pense qu'elle a rencontré une femme à Paris et qu'elle vit un truc avec une femme. Donc il se fait pas trop de soucis. Pareil, elle a pas à ce moment-là, elle a pas le courage de lui dire. Et un jour. À peu près 10 jours après, c'est un samedi soir, je suis dans mon bar, je travaille, il est 22h et quelques, et je reçois un WhatsApp avec une photo. Et la photo, c'est un test de grossesse positif. Et rien d'autre. Donc.
Quoi ?
Ouais. Et. Très à l'américaine.
Wow.
Et. Je te rappelle qu'on est dans un film.
Oui.
Et donc, je vire tout le monde du bar. Je ferme le bar et je l'appelle et elle est en désarroi total. Elle pleure au téléphone. Elle est vraiment. Elle vit un moment très difficile émotionnellement. Et moi je lui dis écoute, moi, quoi qu'il arrive, je veux être avec toi. Donc peu importe ce que tu veux faire, moi je te suis là-dessus quoi. Mais il y avait une certaine naïveté là-dedans aussi puisque je venais d'ouvrir mon bar, j'avais pas beaucoup de moyens, je vivais en coloc. Enfin bon, à un moment. Tu vois, il faut aussi les paroles, c'est bien, mais il y a un moment, il y a cette masculinité à avoir, ce masculin à ok, mais comment tu provides, tu vois. Mais bref, donc je lui dis ça et je le pensais vraiment. Et puis finalement, elle décide de se faire avorter et elle prend rendez-vous dans une clinique à Boston. Mais je sais pas si tu connais ça, mais aux États-Unis, il y a un certain nombre de fausses cliniques, surtout dans les régions très catho comme ouais. Boston. Où les femmes en fait pensent qu'elles vont se faire avorter, mais en fait les gens qui les reçoivent sont pas là pour les aider à avorter.
Incroyable.
Ils sont là pour leur laver le cerveau et les faire culpabiliser. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Oui, c'est le mouvement pro-vie qu'on a un peu en France aussi.
Voilà. Et ils lui ont tellement, ça a été tellement violent pour elle qu'elle est ressortie de là et elle me tenait un discours de, il faut que je me repente, j'ai péché, blablabla. Donc je vais garder l'enfant. Et donc je lui dis, écoute, ok, je voulais pas discuter de ça à distance, tu vois. Je disais, ok, moi, peu importe, je garde l'enfant, moi, je suis content d'avoir cet enfant avec toi. Juste reviens et on est ensemble quoi. Et d'ailleurs elle va voir elle va faire une première échographie et il lui confirme que c'est moi en fonction des dates le géniteur. Donc voilà. Sauf que pour elle c'est difficile parce que elle est confrontée à ce péché entre guillemets. Venant d'une famille extrêmement catholique,
ah oui.
10e enfant, ses grands-parents dans un gang de motards catholiques, donc ils sont sur des Harley, le grand-père il a une énorme barbe et puis il a une croix du Christ sur son blouson dans le dos.
Mais quelle vie !
Et il parcourt les États-Unis comme ça. évidemment pour elle, c'est impensable de parler du fait qu'elle tombe enceinte de quelqu'un qui soit pas
son mari,
son mec, enfin elle est pas mariée mais oui. son conjoint officiel. Donc elle se retrouve dans un truc psychologique hyper difficile, compliqué, et elle a la pression du gars qui sent qu'il se passe quelque chose parce que elle lui dit pas. Mais voilà, il met la pression et tout, et puis finalement elle lui dit quand même, et là c'est à coup de il vient complètement bourré tous les soirs avec une bouteille de whisky, s'allonger à côté de son lit, à pleurer, à la supplier, à machin. Et moi qui suis à l'autre bout du monde entre guillemets, et qui je suis là pour elle, mais je suis pas là pour elle en fait. Et donc je
pour le coup, tu plaques pas tout.
Je plaque pas tout. Je plaque pas tout parce que pour moi, j'ai pas les moyens de tout plaquer là cette fois-ci. Et on vient sur l'argent. Et on vient sur le rôle de l'homme. Et on vient sur tu vois tout ça. Donc je pense que si j'avais eu les moyens, j'aurais tout plaqué. J'aurais pris l'avion direct. Mais là, c'était pas le cas. Et donc, je comprends bien la situation dans laquelle elle est, tu vois. Je la juge pas, et je sens que petit à petit, elle devient un peu lionne protectrice, tu vois. Un peu les hommes, foutez-moi la paix, quoi. Et donc, je perds un peu une accroche sur elle, et ça commence à me faire vaciller aussi émotionnellement. Et donc, j'essaye à la fois, je suis dans une situation hyper difficile, j'essaie de pas être trop présent, mais en même temps d'être là, de ne pas perdre ça, tu vois. Mais je sens bien que je la perds petit à petit. Et puis en plus, viennent les questions très pragmatiques de elle parle pas français. Moi, j'ai commencé à aller voir des avocats, comment faire pour la faire venir, la nationalité de l'enfant, enfin, tous ces trucs-là. Il y avait vraiment une histoire très pragmatique de où est-ce qu'on va vivre, comment on va faire tout ça. Et donc, elle a un deuxième rendez-vous avec un médecin, un gynécologue. Ils refont une échographie et lui, il lui dit non, c'est sûr que c'est celui de votre conjoint. Donc, de son mec à Boston. Donc, énorme désarroi. Elle m'appelle en pleurs. Elle me dit, je ne sais plus quoi faire. Et je lui dis, écoute, moi, je m'en fous, en fait, de qui il est. Moi, je veux être avec toi, j'ai envie qu'on élève cet enfant ensemble, voilà. Mais voilà, finalement, long story short, enfin, c'est plus short du tout, mais elle fait le choix de rester là-bas, de la sécurité. Ce qui va avoir une incidence dans mes relations suivantes aussi, parce que ce choix de sécurité, il va revenir souvent.
Dans la suite de tes relations, les femmes vont plutôt aller chercher la sécurité, c'est ce que tu veux dire ?
Ouais, alors que moi, je vais toujours être l'avocat de l'amour, tu vois. Et je pense que c'est pour ça aussi que je me retrouve souvent avec des Américaines, parce que dans leur culture, tu vois, c'est pour ça qu'ils font autant de comédies romantiques, c'est que le pragmatisme passera toujours avant l'amour. Comme eux, ils n'ont pas la sécurité que nous on peut avoir avec la sécurité sociale, le chômage, etc. Eux, c'est pas possible d'avoir ce luxe-là. Donc la sécurité avant tout. Et bref, elle choisit de rester là-bas, mais elle est ambivalente parce que je lui dis moi je me bats quand même un peu, mais à un moment je dis je suis ici, je suis tous les jours dans mon bar, ça fait 6 mois que je l'ai lancé, je peux pas, enfin tu vois. Donc s'ensuit une période horrible pour moi, et je lui dis écoute, faut qu'on coupe les ponts parce que je peux pas continuer comme ça. Et tous les 10 jours, 15 jours, elle m'envoyait un message quand même. Je t'aime, je pense à toi, je fais une connerie, etc. Mais bon, ça change rien, quoi. Et juste moi, ça m'empêchait d'avancer.
D'aller de l'avant, oui.
D'aller de l'avant. Et du coup, à un moment, je bloque tout. Et voilà. Et pour moi, je reste sur le fait que c'est le sien, tu vois, puisque c'est la dernière info que j'ai eue. Et puis, arrivent les attentats de 2015, et je reçois un message de sa part, parce qu'elle savait où était mon bar, donc on était à côté d'une sortie de secours du Bataclan, Donc elle savait où c'était et elle m'envoie un message. Voilà, je t'ai jamais réécrit parce qu'elle prend un autre biais pour m'envoyer le message puisque tous les autres trucs étaient bloqués. Et elle me dit voilà, j'espère que ça va, que elle était inquiète quoi. Et donc on reprend un peu contact, on discute.
Ça faisait combien de temps que vous étiez pas
parlé ? Ça faisait un an et demi.
Ok.
Et donc elle me dit bah le petit est né et je suis marié et son conjoint lui avait imposé le mariage si elle faisait ce choix là de rester avec lui, il fallait qu'il se marie tout de suite. Et donc voilà et en fait elle me dit tu sais je sais pas de qui il est et je veux pas savoir. Et bon, c'était ouais, c'était dur.
Bah oui.
Tu vois. Et je lui dis mais comment ça, tu veux pas savoir, etc. Elle me dit bah en fait le truc c'est que leur calcul ça se base sur des jours de conception et en fait elle a fait l'amour avec lui une fois et ce qu'elle me dit pendant leurs vacances et ça se joue à quelques jours près. En fait du coup tu peux pas calculer. Et elle veut pas faire de test de paternité. Et elle me dit, en fait, j'ai besoin de pas savoir, parce que sinon, si je sais, je peux pas affronter mon quotidien.
Eh ben.
Voilà. Et donc, elle a aujourd'hui 3 enfants. Et elle m'écrit toujours. Et au fil de mon travail sur moi, de mes découvertes sur moi aussi, de certaines découvertes génétiques, tu vois, à un moment, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute... ce serait bien de savoir parce que peut-être qu'il y a des trucs que je peux t'aider, enfin des tips que je peux te donner par rapport à, tu vois, des maladies dans ma famille ou des choses comme ça qui pourraient éventuellement avoir une incidence sur ton fils. Mais à ce jour, elle veut toujours pas savoir.
Alors petit tips pour tous les jeunes qui nous écoutent, protégez-vous, mettez des capotes si vous ne voulez pas avoir d'enfants.
Exactement.
J'aime bien utiliser, tu vois, ce ouais, canal.
Ah, bah, tu as raison.
Parce que ça évite ce genre de déconvenue. Comment tu le vis, toi, l'idée d'avoir un enfant, peut-être, quelque part, à l'autre bout du monde ?
Aujourd'hui, je suis très philosophique par rapport à ça, tu vois. Bon, après, j'en ai pas parlé à ma famille, tu vois. Bon, déjà, je suis pas très proche de ma famille, mais je vois pas l'intérêt. Mais après, au-delà de ça, ça me travaille pas, quoi.
Bon, t'es le géniteur quelque part, t'es pas le...
Exactement. Et je respecte son choix et je me dis, bon, ça sert à quoi d'aller... ils ont l'air très heureux, il a l'air très bien avec ses enfants. Je vais pas, tu vois, taper un pied dans la fourmilière.
Ok. Et donc à la base, moi, ma question, c'était plutôt, et quid de faire un enfant, mais plutôt dans une situation plus normale.
Ouais. Bah, et tu vois, et du coup, ouais, pendant longtemps... Mon truc, ça a été, je peux pas faire un enfant si je suis pas capable de créer un environnement différent de ce que j'ai vécu.
Okay.
Donc j'étais notamment avec une femme pendant 3 ans, à la fin de ma vingtaine, que j'aimais profondément. Et c'était la première femme avec qui je me sentais libre sexuellement aussi, où je n'avais pas l'impression d'avoir un problème. Elle avait plus d'appétit que moi, donc pour la première fois de ma vie, je me disais, putain, mais en fait, ça existe. Et parce que pendant longtemps ça a été un sujet difficile pour moi. Bon, c'est encore un autre sujet, mais bref, et je l'aimais profondément, mais je savais que je pouvais pas avoir d'enfant avec elle parce que tu vois, Penelope Cruz dans Vicky Cristina Barcelona, ben voilà, c'était pas les assiettes qui volaient mais pas loin, et donc une intelligence émotionnelle pas à la hauteur de ce dont j'avais besoin. Et moi, j'étais pas non plus à une hauteur incroyable, mais en tout cas, je pense que j'avais la capacité de me dire, ok, bah, je vais changer de pièce ou je vais pas commencer à hurler dans tous les sens. Et du coup, bah, je l'ai quitté parce que je me suis dit, je vais pas la traîner dans sa trentaine, alors qu'elle aimait d'un coup. Enfin, c'est vraiment venu du jour au lendemain dans notre relation, la troisième année, du jour au lendemain, tous les jours, elle me parlait d'enfant. Et je me suis dit, bah, je peux pas lui faire ça, quoi. Donc, je me suis séparé d'elle et ça, j'ai mis un an et demi à m'en remettre quand même. Ouais. Et après ça, bah, ça a été ouais, le fait de me dire, bah, ok, je pense que j'ai envie d'avoir des enfants, mais ça dépendra de la personne avec qui je suis. Et
c'est mieux, hein, une meilleure. Enfin, je recommande de faire des enfants avec quelqu'un avec qui ça match. Enfin, tu vois.
Ouais. Ouais, parce que je pense que c'est important de aussi pour le, tu vois, d'une manière plus générale pour ce qu'on est en train de vivre dans notre société, pour notre planète, pour plein de choses. Les traumas qui se transmettent de génération en génération, d'avoir un peu plus de conscience par rapport au fait de faire des enfants et pas d'un peu suivre un long fleuve tranquille parce que ça se fait automatiquement ou parce que la société veut que, mais sans mettre en place des choses vraiment qui sont capitales à mon sens pour la santé mentale de la planète et la survie de l'espèce. Donc voilà, je sais pas du coup si un jour je me sentirais à cet endroit-là. J'ai eu des envies avec certaines de mes dernières partenaires. Et en tout cas, j'ai clairement envie de construire vers ça. Mais une forme de side project, en fait. Ça peut pas être le focus total pour moi.
Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler ?
Je pense que le sujet de la sexualité est extrêmement important dans tout ça. Dans le qu'est-ce que c'est être un homme aussi, comment je fais pour accepter mes parts inconscientes, mes parts animales, mes pulsions, quand est-ce que c'est bien, quand est-ce que c'est mal, tu vois. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai beaucoup cheminé parce que c'est quelque chose qui a été omniprésent dans ma vie. En fait, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu la chance de rencontrer une femme qui en avait 33 et qui m'a éduqué à ce niveau-là. Mais en même temps, ça a été le revers de la médaille, c'est que du coup, les personnes que je rencontrais de mon âge après, y avait un décalage énorme. Et j'ai beaucoup souffert de ça. Et j'avais même l'impression d'être presque un prédateur, tu vois. Alors qu'en réalité, après, c'est juste une question de compatibilité. Tu vois. Mais ça pose beaucoup de questions sur à quel moment c'est OK, à quel moment, tu vois. Bien sûr, il y avait du consentement, mais malgré le consentement, parfois, il y a des choses que certains ou certaines ont envie, d'autres non. Et puis à l'intérieur du consentement, d'un coup, il n'y en a plus, ou en tout cas, il y a quelque chose d'autre qui se met en place, d'une forme de soumission qui est malsaine. Enfin, voilà. Donc c'est tout ça a été tout un, une, comment je peux dire, un filet de, une toile d'araignée à décortiquer. Tu vois. Et aujourd'hui, je commence à sortir la tête de l'eau par rapport à ça et à voir un peu plus. Ok. De quoi j'ai besoin moi, de quoi j'ai envie, comment je l'exprime, comment je filtre aussi du coup, et qu'est-ce que ça veut dire être...
Quand tu filtres, tu veux dire
mes rencontres.
Ah oui.
Du coup, tu vois, parce qu'il y a quand même, enfin, je veux pas généraliser, mais il y a quand même cette pulsion et cet instinct inconscient et parfois conscient masculin de il faut que je me reproduise à tout prix, donc il faut que je possède d'une certaine manière n'importe quelle femme qui croise mon chemin.
Il faut répandre ta semence le plus partout possible.
Exactement. Mais c'est un mécanisme primitif qui est là, qui existe. Là où peut-être la femme aura plus tendance à avoir un instinct de qualité, plus que de quantité. Qui va rejoindre d'ailleurs le sujet de la masculinité, du fait de provide, du fait d'être présent. Donc bref. Et c'est là où ça devient aujourd'hui, je pense, complexe dans notre société, c'est comment j'exprime une part de masculinité qui plaît à certaines et qui est nécessaire pour certaines pour que l'attirance reste entière et qui n'est pas du tout possible pour d'autres parce qu'elles ont vécu des choses ou juste parce que
ça les intéresse pas,
etc. Et on est tous différents. Et c'est quand même pas simple parce que, enfin, je trouve, parce que y a beaucoup de jugements, beaucoup de pointages de doigts, beaucoup de difficultés par rapport à ça.
Sacré délire d'être un mec. Merci Marc.
Avec plaisir.
C'était canon. C'était très dense.
Ouais,
On est parti sur plein d'aspects, mais vraiment, merci beaucoup. Est-ce que les gens peuvent te contacter quelque part ?
Bien sûr.
Sur les internets, par exemple ?
Voilà, déjà, j'ai mon site, www.marc-weltersbach, donc ça, c'est mon nom allemand.
Ça, je mettrai le lien.
Ouais, je pense que c'est mieux.
Dans les notes.
C'est comme ça se prononce. Et ou sur Instagram, ou sur LinkedIn, ou sur toutes les plateformes.
Eh bien, je mettrai tout ça, afin que les gens puissent venir te contacter s'ils le souhaitent.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, c'était très chouette.
Merci à toi.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.